C'est étonnant, non? Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, je vais vous parler du barbier de Séville. Séville est la capitale de l'Andalousie, c'est une ville absolument magnifique qui a connu une histoire incroyable parce que c'était un des rares endroits où ont pu cohabiter les trois religions, à savoir le christianisme, le judaïsme et l'islam. C'est une notion de tolérance et une chose dont nous aurions peut-être pu nous inspirer en 2025. Mais le sujet n'est pas là, comme d'habitude je m'égare. Le barbier de Séville en fait est une pièce avant tout de beau marché, alors pourquoi l'a-t-il situé à Séville? Il y a certainement plusieurs raisons, mais la première raison est surtout une raison théâtrale. La ville est magnifique et permet aussi des décors absolument formidables, ce qui intéressait beaucoup Beaumarchais. Alors il faut savoir une chose, c'est que les pièces de Beaumarchais ont tout un sous-titre. Le barbier de Séville a pour sous-titre la précaution inutile. Cette pièce de théâtre, elle a eu des vicissitudes parce que lors de sa création à l'Opéra Comique, elle a été refusée. On a demandé à Beaumarchais d'en refaire une chose en allégeant un petit peu, donc Beaumarchais en a coupé des passages et en a refait. Ça a plu, mais pas trop mal. Finalement, il a coupé beaucoup de dialogues. La dernière représentation a eu un succès qui ne s'est pas démenti au cours des siècles. Ceci étant, c'est une pièce qui a toujours eu beaucoup de difficultés parce que c'est une pièce extrêmement politique et nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, ne l'oublions pas. L'aristocratie a encore un pouvoir évident, le clergé également, et Beaumarchais va fustiger un petit peu tout ça par l'intermédiaire de son personnage Figaro, qui est certes coiffeur et valet, mais également un homme d'une intelligence extraordinaire et qui est aussi une espèce de militant pour la lutte des classes.
Eh bien, et cet emploi?
Le ministre, ayant égard à la recommandation de votre excellence, me fit nommer sur le champ garçon apothicaire.
Ah, dans les hôpitaux de l'armée?
Ah non, dans les haras d'Andalousie.
Beau début.
Ah, le poste n'était pas mauvais, parce qu'ayant le district des pansements et des drogues, je vendais souvent aux hommes de bonnes médecines de cheval.
Ah, qui tuaient les sujets du roi?
Oh, il n'y a pas de remède universel, mais qui n'ont pas laissé de guérir quelquefois des Galiciens, des Catalans, des Auvergnats.
Pourquoi dans l'as-tu quitté?
Quitté? Ah, c'est bien lui-même. On m'a desservi auprès des puissances. L'envie aux doigts crochus, au teint pâle et livide.
Oh, grâce, ami. Est-ce que tu fais aussi des vers? Je t'ai vu la griffonnant sur ton genou et chantant dès le matin.
Voilà précisément la cause de mon malheur, Excellence. Quand on a rapporté au ministre que je faisais, je puis dire assez joliment, des bouquets à Chloris, que j'envoyais des énigmes aux journaux, qu'il courait les madrigaux de ma façon, enfin un mot, quand il a su que j'étais imprimé tout vif, il a pris la chose au tragique et m'a fait ôter mon emploi sous prétexte que l'amour des lettres est incompatible avec l'esprit des affaires.
Oh, puissamment raisonné. Tu ne lui fis pas présenter que...
Je me crus trop heureux d'en être oublié. Persuadé qu'un grand nous fait assez de bien quand il ne nous fait pas de mal.
Tu ne me dis pas tout. Je me souviens qu'à mon service, tu étais un assez mauvais sujet.
Mon Dieu, monseigneur, c'est qu'on veut que le pauvre soit sans défaut.
Paresseux, dérangé.
Aux vertus qu'on exige dans un domestique. Votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets?
Le propos de Figaro est assez clair. Il explique à Almaviva que quand on est intelligent et qu'on fait partie du peuple, dans un système monarchique, on est quelqu'un de dangereux. Et c'est pour ça qu'il a été mis sur le côté. Almaviva, lui, reconnaît tout à fait l'intelligence de Figaro. Et ça l'intéresse, puisqu'il va s'en servir. Cette pièce, même si elle a eu des difficultés, aura quand même des émules et aura quand même inspiré des gens. Elle a inspiré un premier opéra à quelqu'un qui pourtant n'est vraiment pas un type de musicien révolutionnaire, qui s'appelle Giovanni Paisiello. C'était le compositeur préféré de Napoléon. Je vous en passe un tout petit extrait. Thank you. Il y a parfois des coïncidences curieuses. Quand Paisiello a écrit son opéra, il l'a écrit 7 ans après la parution de la pièce, ce qui est relativement tôt, hein. Il a 42 ans. Rossini, lui, va l'écrire 40 ans après la parution de la pièce, et lui-même a 41 ans. On est dans un mode tout à fait différent, et ils ne vont pas s'intéresser aux mêmes choses. Rossini s'intéresse à l'intrigue politique, à cette histoire de lutte des classes, de ce valet très intelligent, et très drôle aussi, bien sûr, parce que c'est une pièce très drôle, le Barbier de Séville. Alors que Paisiello va plus insister sur le côté sérénade, sur le côté le balcon de Rosine, où Almaviva vient jouer de la mandoline. On est plutôt dans un mode comme ça. Et évidemment, les deux pièces ne vont pas avoir le même succès, les compositeurs non plus. Malgré la réputation de Paisiello auprès de Napoléon, le grand public n'a pas retenu son nom. Rossini va écrire en 1816 ce Barbier de Séville, celui qu'on connaît, et la création va s'avérer une vraie catastrophe. Il va bricoler en fait une ouverture qu'il avait déjà utilisée pour 2 opéras. 2 jours avant la représentation, elle n'est toujours pas écrite. Cette ouverture, qui est superbe, est devenue un grand classique du répertoire des orchestres symphoniques et se joue même fréquemment, sans l'opéra qui suit, à des concerts simplement de musique instrumentale. Alors Rossini a écrit ça très vite. Son librettiste a également fait la chose en temps voulu. Il s'agit d'un écrivain italien qui s'appelle Cesare Sterbini, qui est un petit peu plus vieux que Rossini. Il a 10 années de plus. Et c'est un type d'une culture hallucinante. Il a fait de la philosophie, de la linguistique, du grec, du latin. Il parle 3 langues, l'italien, le français et l'allemand parfaitement. En espagnol, il se débrouille, en anglais aussi. C'est vraiment quelqu'un de très érudit. Et il a déjà collaboré avec Rossini l'année d'avant pour un autre opéra qui est totalement tombé dans l'oubli, qui s'appelait Torvaldo et Dorliska, qui nous raconte les histoires d'un certain chevalier de Faublas. C'est un livre français qui avait eu un certain succès en son temps, et il sera d'ailleurs repris par d'autres compositeurs d'opéra ultérieurement.
Voyez la belle besogne. Voyez la belle besogne. Vraiment, vraiment, je rougis pour vous. Je rougis pour vous. Courir toute la Pologne, on nous prendrait pour de fous. Courir toute la Pologne, on nous prendrait pour de fous.
Le petit extrait que l'on vient d'entendre est dû à Cherubini, qui a été directeur du Conservatoire de Paris, il était d'origine italienne, bien sûr. Il n'a pas pris le même titre. Alors évidemment, opéra en français, je dois reconnaître que c'est un petit peu ce genre d'extrait qui fait que beaucoup de personnes n'aiment pas l'opéra. Il y a un côté quand même qui est un petit peu lourdingue. Et puis bon, les paroles font toujours un drôle d'effet, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire un rapport entre l'opéra et la chanson dans la même langue. Or, si les choses se passent très bien dans des langues comme le russe ou comme l'italien, voire même comme l'anglais, n'ont pas toujours ce bonheur de notre langue à nous, la langue française, qui se prête assez mal au chant. Mozart maudissait la langue française à mettre en musique. Il ne l'a pas fait beaucoup pour une petite opérette qui s'appelle Bastien et Bastienne, mais sinon il préférait 10 fois mettre en musique l'allemand et l'italien qui s'y prêtaient, selon lui, beaucoup plus. Et je crois qu'il avait raison. Rossini, lui, ne connaîtra pas ce problème, pour la bonne raison que si la pièce de départ est effectivement en français, la pièce de Beaumarchais, son librettiste va faire tout ce qu'il faut pour la mettre dans un italien non seulement convenable, mais en plus facile à chanter. Le Barbier de Séville est une pièce intéressante à bien des points de vue, notamment au niveau vocal, où il y a plusieurs performances de chanteurs qui sont dues parfois simplement au fait de l'articulation. Et ça, effectivement, toutes les langues ne permettent pas ça. Je vous rappelle le nombre de personnages et l'histoire vaguement. C'est l'histoire d'un noble, le comte Almaviva, qui est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Rosine. Cette jeune fille est détenue par un vieux docteur qui s'appelle Bartolo, le type même du barbon dans les comédies, c'est-à-dire le vieux qui veut s'envoyer une jeune. Bartolo veille sur elle comme sur la prunelle de ses yeux et il veut l'épouser, ce qui n'est pas encore fait. Alors, on a l'intervention d'un maître de musique, de sa femme de chambre, du domestique du comte Almaviva, qui n'est pas Figaro, bien sûr. Figaro, c'est un ancien domestique, c'est lui qui est barbier, c'est un des deux rôles principaux. Et on a également des rôles secondaires, des domestiques, des musiciens, des soldats, un officier, le clerc du notaire, etc. Voilà. En ce qui concerne les voix, on est plutôt dans un registre grave. Mis à part Almaviva qui est ténor et la femme de chambre qui est soprano, dans le registre aigu des voix d'hommes et des voix de femmes, le reste est plutôt dans le registre grave. Figaro est baryton, Rosine, contrairement à ce que tout le monde pense, parce que c'est vrai que la cavatine qu'on connaît est souvent chantée par des sopranos, voire même par des coloratours, normalement c'est un rôle de contralto. Bartolo, le vieux docteur et le maître de musique sont basses. Le domestique du comte Almaviva est également basse. Ça nous fait quand même un florilège de voix plutôt grave.
Et meschino calunniato, avvilito calpestato, sotto il pubblico fratello per canzone festa che por. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran forte padre par. Sotto il pubblico flagello per gran forte padre par. Sotto il pubblico flagello per gran forte padre par. Se va a crepar, se va a crepar, se va a crepar.
Ceux qui connaissent l'opéra seront peut-être surpris que j'ai passé en premier cet extrait fameux de l'air de la calomnie et chanté donc par une basse, le maître de musique qui s'appelle Basile. Mais ce n'est pas un hasard si j'ai choisi cet air-là. Le jour où l'œuvre va être créée, le 20 février 1816, dans un théâtre de Rome, le Teatro di Torre Argentina, la représentation va se passer d'une manière épouvantable. Et tout ça, ça commence déjà par une cabale d'un compositeur qui s'appelle Spontini. Les cabales, à l'époque, c'était quelque chose de courant. Et d'ailleurs, est-ce que ça a tellement changé? On n'en est pas sûr. Alors comment ça se passait? Généralement, celui qui organisait la cabale avait quelques moyens, donc il réunissait un maximum de monde pour aller semer le bazar pendant la présentation. Donc ça se passait comment? Ben on sifflait, on huait, on faisait du bruit, on faisait tout en fait pour que la première se passe le plus mal possible. Et Spontini était coutumier de fête. Spontini a une vingtaine d'années de plus que Rossini. Il est déjà très établi, il est romain. Il connaît par cœur la capitale et tous ses tenants et ses aboutissants. Ça va lui servir pour essayer de déstabiliser son confrère, dont il ne mésestime en aucun cas le talent. Il a écrit un opéra qui s'appelle La Vestale, qui a eu beaucoup de succès. C'est une histoire inspirée de l'Antiquité, alors que le Barbier de Séville, lui, même si la pièce a été créée 40 ans auparavant, met en exergue le thème de la lutte des classes, qui est un thème intemporel. Et ça, c'est une chose qui contrarie Spontini, qui quelque part est un homme conservateur, à la grande différence de Rossini. Les parents de Rossini étaient deux musiciens, et quand on regarde leur parcours, ils ont organisé des choses pour que leurs confrères soient payés mieux et tout. Ils avaient, entre guillemets, un côté syndicaliste. Et ce n'était pas les seuls. Quand on regarde l'attitude de Mozart par rapport à Colloredo, l'archevêque de Salzbourg, Mozart a eu une attitude de syndicaliste. Il a réussi à rompre les ponts avec ça, ce qui à l'époque était quelque chose de complètement extraordinaire. Et Rossini, il a un petit côté comme ça aussi. Mais bon, ce soir-là, l'autre va tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. Pour en revenir aux cabales, il y a des jeunes gens qui ne faisaient que ça. C'était souvent des fils de riches, alors aristocrates ou bourgeois, peu importe, et qui n'avaient pas grand-chose à faire de leur vie, à part s'amuser sur des plaisirs faciles, et c'était toujours une joie pour eux, sans rien y comprendre la plupart du temps, d'aller démolir l'œuvre d'un compositeur ou d'un homme de théâtre. Voilà, ça les occupait. C'était malheureusement une pratique assez courante. C'était comme ça. Alors la cabale c'est une chose, mais parfois le hasard fait aussi les choses d'une manière malencontreuse. Ce que nous venons d'entendre, c'est le début de l'opéra, c'est la cavatine du comte Almaviva. Il va chanter la sérénade sous les fenêtres de Rosine. Et alors évidemment, il est accompagné d'une mandoline ou d'une guitare, d'un instrument à cordes. Et il se trouve que ce soir-là, le ténor qui va créer le Barbier de Séville va gratter malencontreusement quelques cordes de la mandoline, qui est totalement désaccordée. Et le public va se mettre à huer et à siffler, jusqu'à la fin de la cavatine. Thank you.
Les musiques de Rossini sont très mélodiques. Rossini est un compositeur qui est très attaché à la mélodie. Et de fait, on va jouer beaucoup de ses extraits d'opéra. C'est le cas de la fin de cette cavatine, que je vous ai choisi, jouée à la trompette par Maurice André, et qui montre à quel point Rossini considérait la voix vraiment comme un instrument, avec tout ce que ça comporte de technique et de difficulté. Mais notre ténor n'est pas au bout de ses peines, car ses camarades vont avoir aussi des soucis, dont Basile, par exemple, va trébucher. Il va tomber, il va se mettre à saigner du nez. Rossini va être sifflé parce qu'à un moment, il va y avoir un petit problème avec le clavecin, avec lequel il accompagne les récitatifs. Et alors, comble du comble, un moment, on ne sait d'où il vient, un chat va traverser la scène, et toute la salle va se mettre à miauler. Cette pièce, qui s'appelle « Le duo des chats », n'est absolument pas dans le Barbier de Séville. Elle a été écrite 9 ans après par un compositeur anglais, vraisemblablement. Elle est attribuée à Rossini parce qu'elle comporte deux thèmes d'Othello, qui est un autre de ses opéras, mais ce n'est pas lui qui l'a écrite. Elle est souvent jouée en fin de concert, et souvent après des récitals de chant, notamment des récitals de soprano, parce qu'en fait ça a été écrit pour deux femmes. Et là, c'était un bis après un concert, ce qui vous explique effectivement les rires et les clameurs du public. Voilà, que j'ai coupé quand même un petit peu. Nous restons pour le moment à la première du Barbier de Séville et nous écoutons la cavatine de Figaro, qui est un des morceaux de bravoure de l'opéra.
Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità, la 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 la. Pro
pronto a far tutto la notte e il giorno. Sempre intorno in giro sta mille cucaglie per un barbiere, vita più nobile ma non si dà. Rasori e pettini, lancetti, forbici a mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lancetti, forbici a mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la la lera, col cavaliere, tra la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il dietro, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il dietro, e Figaro, 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 ahimè, ahimè, che fuggia, ahimè, che falla, tu bella volta, per carità, per carità, per carità, una bella volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto, prontissimo, sol come di fulmini, sono fra conto della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità, tra la 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non terrà. Sono il fantasma della città, sono il fantasma della città, della città, della città, della città.
Rossini est écœuré, il ne va même pas aller boire un verre avec ses amis après la représentation, ce qu'on fait toujours. Il va rentrer à son hôtel et il va se coucher. Une heure après, sous les fenêtres, c'est un tonnerre d'acclamations. Il y a une centaine de personnes qui sont là, qui l'applaudissent, qui l'acclament et qui le font lever. La représentation du lendemain sera un triomphe.
C'est étonnant, non ?